Chers amis mélomanes, fidèles d'Opéra Gora, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver chaque mois et de retracer ensemble un chef-d'œuvre de l'opéra. L'opéra, ma passion, ma profession, qui m'a tellement apporté en 45 ans de carrière de chef d'orchestre de par le monde. Ce soir, avec Nancy Zautier, notre brillante metteur en onde, nous évoquerons Othello et clôturerons ainsi le cycle Verdi. Othello, drame de la jalousie, chef-d'œuvre de Shakespeare qui a inspiré bien des artistes. C'est l'avant-dernier opéra de Verdi. Verdi qui est désormais un robuste senior et qui a mis dans cet opéra la somme de son savoir et de son métier. C'est un opéra très équilibré et très inspiré, beaucoup joué sur toutes les grandes scènes, mais à condition d'avoir un ténor exceptionnel, tant le rôle d'Othello est redoutable. Comme vous avez l'habitude que je vous relate quelques anecdotes de ma carrière, je vous confierai qu'Othello, malgré tous les plaisirs que j'ai pris à le diriger, eh bien, Othello est aussi pour moi l'un de mes plus mauvais souvenirs. Cela se passait dans un grand festival lyrique, et curieusement, cette fois-ci, l'affaire se présentait mal. Je venais de renvoyer le baryton qui chantait le rôle de Iago, car très insuffisant, selon moi, et je voulais également renvoyer le ténor, qui campait Othello. J'en ai averti le directeur du festival, qui s'y opposa, car j'avais déjà renvoyé le baryton, et surtout parce que le ténor en question venait tout juste d'enregistrer Othello pour la Deutsche Grammophon, ce qui semblait être un argument imparable. Oui, mais entre enregistrer un disque où l'on peut s'arrêter, recommencer, boire un café entre les prises de son, et puis, sur scène, chanter le rôle d'un bout à l'autre, il y a un monde. Je répliquais que l'on courait à la catastrophe. Mais l'on ne m'écouta pas. Le baryton remplacé arriva, lui, pour la générale. Et le ténor, conservé, chantonna et se réserva à cette générale, ce qui lui permit de faire illusion. Puis vint le spectacle, la première, avec, bien entendu, toute la presse. À la fin du premier acte, le ténor était déjà épuisé. Et cela empira jusqu'à la fin de l'opéra. Le public invité sur le volet était furieux. La presse déchaînée. Il fallut donc le remplacer pour les autres spectacles. Mais aller trouver un Othello pour le lendemain et qu'il accepte de chanter sans avoir le temps de répéter, c'était une gageure, et en plus c'était très dangereux. Mais il fallait jouer, sinon rembourser les deux autres spectacles à venir. C'est-à-dire un drame financier pour le festival qui risquait tout simplement de faire banqueroute. Finalement, après avoir appelé tous les imprésarios possibles imaginables, arriva un ténor, slave, inconnu, mais, ma foi, présentable. Et nous pûmes jouer. Mais quel souci et quel mauvais souvenir. L'intrigue de cet opéra est connue. Othello, drame de la jalousie. Jalousie conjugale, provoquée par les mensonges d'un traître et d'un traître soi-disant ami. Acte 1. Othello, vaillant guerrier maure, général de l'armée vénitienne, rentre au port à Chypre avec son navire après avoir remporté une victoire triomphale en mer. Desdémone, sa femme fidèle, l'attend amoureusement. On allume un feu de joie. Mais Iago, le soi-disant ami d'Othello, manigance un plan immonde. Il pousse le jeune capitaine Cassio à courtiser Desdémone, qui le repousse. Mais le mal est fait. Iago rapportera à Othello les preuves d'une soi-disant trahison. Une fake news, comme on dirait aujourd'hui. Et Othello, trop crédule, finira par étrangler Desdémone, l'innocente Desdémone. Pour l'instant, écoutons le feu de joie allumé pour le triomphe du retour d'Othello. Fuoco di gioia par Karl Kendlinger et l'Opéra de Munich. La manœuvre immonde du terrible Iago. Lors de la fête en l'honneur du retour d'Othello, Iago pousse le jeune capitaine Cassio à boire. Et sous le coup de l'ivresse, il pourra le manipuler pour qu'il aille courtiser Desdémone. C'est l'occasion pour Verdi de composer une magnifique chanson à boire, avec participation des choristes et surtout une palette orchestrale des plus réussies. Avec cependant une vraie difficulté vocale pour le baryton Iago, car il doit chanter dans l'extrême aigu, avec une note qui est le la naturel, qui pour un baryton, eh bien, c'est vraiment très très haut. Je me rappelle encore notre grand Gabriel Baquier pestant pour rattraper cette foutue note. Écoutons donc cette très dynamique chanson à boire. Écoutons Carlos Alvarez. Sous l'effet de l'alcool, l'ambiance devient chaotique. Cassio, complètement ivre, est destitué de son grade de capitaine par Othello. C'est ce que voulait Iago, qui l'incite maintenant à devenir l'amant de Desdémone pour se venger d'Othello qu'il déteste. Cependant, la fête continue. Et Othello et son épouse se retirent dans un merveilleux duo d'amour d'une grande qualité musicale. Et le premier acte se termine dans un délicieux pianissimo sous la voûte étoilée. Duo Già nella notte densa, déjà dans la nuit dense. Écoutons Placido Domingo et Angela Gorgiou.
Oh,
Ce Domingo, quel ténor! J'ai eu l'honneur en 1979, eh oui, c'est pas hier, hein, à l'Opéra de Monte-Carlo, de faire avec Domingo, eh bien, ses premiers pas dans le rôle de Othello. Il débutait, et surtout dans la grande mise en scène célébrissime de la très très grande Margarita Wallmann, qui faisait les grandes créations, hein, les grandes créations de Stravinsky ou de Richard Strauss. C'était un véritable metteur en scène, cette dame ancienne danseuse étoile, absolument connue dans le monde entier et une référence pour tout le monde. Elle a créé, entre autres, Dialogue des Carmélites de Poulenc. Maintenant qu'il est plus âgé, Domingo chante en baryton et non plus en ténor. Mais avec Pavarotti, il restera l'un des plus grands ténors de notre époque. Et nous arrivons au deuxième acte. Celui-ci commence par le credo de Iago le traître. C'est un air curieux, un peu dans le style de l'opéra Macbeth que nous avons évoqué récemment lors d'une émission d'Agora. Iago confesse sa méchanceté. Sans concession, il se met à jour. « Je suis né vil et je ne crains pas la mort. La mort, c'est le néant. Et le paradis, c'est une vieille farce. » Voilà le credo de Iago. Un air magnifique de force et de profondeur d'âme. C'est plus en réalité un grand récitatif qu'une mélodie chantante. Et cela demande pour le rôle de Iago une voix noire et inquiétante, mais aussi un vrai jeu d'acteur de théâtre. Écoutons ce moment magnifique, écoutons Brin Terfel, le credo de Iago.
Ti spinge il tuo dimone, e il tuo dimon son io, e me trascina il mio, nel quale io credo inesorato, in Dio. D'un germe o d'un atomo vile son nato, son scellerato perché son uomo e sento il fango originario.
À ce credo, Iago entreprend sa manœuvre pour nuire à Othello, pour nuire à Desdémone et aussi pour nuire à Cassio. Ce Iago, c'est un vrai monstre machiavélique. Il demande à sa épouse, sa propre femme, Emilia, un petit rôle dans l'opéra, c'est une mezzo-soprano, la suivante de Desdémone, eh bien, il lui demande à son épouse de voler à Desdémone le mouchoir brodé d'or qu'Othello a offert à sa femme en gage d'amour. Puis, il arrache des mains d'Emilia, son épouse, cette gracieuse et précieuse étoffe, et il s'arrange pour la cacher dans les vêtements de Cassio. Puis, en épiant Othello, il s'arrange pour que celui-ci l'entende murmurer des déclarations coupables, mais fausses. Voilà ce que dit Iago tout près de l'oreille de Othello. « Je suis écœuré de voir que Desdémone et Cassio ont trahi mon cher ami Othello. Je suis écœuré. » Quel culot. Othello, hélas, croit ce qu'il entend. Il saisit Iago et le menace. « Si ce que tu dis est vrai, ma vengeance sera terrible. Mais si par malheur tu mens, eh bien, tu en payeras le prix avec ta mort. » Et Iago jure que ce qu'il dit est vrai. Cassio possède le tissu brodé, gage d'amour d'Othello à Desdémone. Et maintenant, c'est Desdémone qui l'a donné à Cassio en gage d'amour, nous dit ce monstrueux Iago. Othello est fou furieux. Il entre dans une violence terrible et demande à Iago de sceller leur serment de confiance et d'amitié et de faire éclater la vengeance aux yeux de tous. Verdi écrit alors le célèbre duo du serment. Musique tonitruante, bravoure et colère. Il faut toujours calmer l'orchestre pour que l'on entende bien les deux chanteurs. Écoutons ce moment d'anthologie par John Vickers, ténor, et par Brian O'Neill, baryton. Le credo, le serment de Iago et de Othello. Maintenant, eh bien, après avoir entendu ceci per ciel marmoreo, c'est-à-dire par le ciel marmoréen, eh bien, se termine ce deuxième acte sur un duo. C'est tout à fait nouveau chez Verdi. D'habitude, il termine son deuxième acte, qui est le milieu de l'opéra, par un grand concertato avec tout le monde en scène, comme dans Macbeth, dans Don Carlos, dans Aïda. Mais, vous voyez, Verdi, vieillissant, veut absolument se renouveler et ne pas se contenter de ses recettes, même les plus efficaces. Et nous arrivons au troisième acte, qui est le dénouement du piège machiavélique tendu par Iago. Cassio, qui était ivre-mort à la fête du premier acte, a donc été dégradé par Othello, le chef suprême. Desdémone, la bonne Desdémone, la fidèle Desdémone, eh bien, elle a pris ce pauvre capitaine qu'elle connaît à peine, elle l'a pris en pitié et elle implore son mari, Othello, de le pardonner et de lui redonner son grade. Quelle erreur! Naturellement, Othello immédiatement imagine qu'elle fait cette demande par amour pour Cassio, ce qui n'est absolument pas le cas. Et Desdémone maladroite insiste « Pardonne-lui, mais pardonne-lui, c'est un pauvre bougre !» Othello devient furieux et il accuse maintenant son épouse d'adultère et il injurie Desdémone, qui ne comprend pas, bien sûr, tant de colère et de violence. Écoutons leur beau duo par Domingo et Barbara Frittoli. Barbara que j'ai eu le grand plaisir de diriger précisément dans le rôle de Desdémone. Elle est maintenant une superbe soprano qui fait une très grande carrière mondiale. Écoutons ce duo. Dio ti giocondi o sposo. Que Dieu te bénisse, ô mon époux.
Storia arrivata. o pur donarlo per via sventura.
Libero
morti! Libero
bello!
E l'hai perduta forse! Lo cerca!
Et au comble du désespoir, se confie à Dieu. Pour la première fois, nous voyons ce guerrier féroce larmoyer comme un petit enfant, démontrant une fragilité insoupçonnée et mettant à jour le vrai grand amour qu'il a pour son épouse. Dieu, tu pouvais tout me prendre! Tu pouvais m'humilier, me torturer dans ma chair, mais m'enlever l'amour de ma femme, c'est la punition la plus terrible que l'on puisse m'octroyer. C'est un monologue très inspiré où se côtoient les plus belles idées musicales de l'opéra. Tantôt, amoureusement, idée musicale révélatrice du passé heureux, puis enfiévré par l'horrible doute, et enfin terrible de passion destructrice et de perte totale de contrôle pour aboutir à une quasi-démence. Écoutons ce moment merveilleux par Jonas Kaufmann. Dio mi potevi scagliar. Dieu, tu pouvais tout m'enlever.
Dio mi potevi scagliar tutti i mali e la miseria e la vergogna. Una macceria, una menzogna. E avrei portato la croce crudel dentro a sé. Thank you. pianto dol, man rapiva il miraggio, ov'io giurivo l'anima qua. Quieto, spento è quel sol, quel sorriso, quel lancio che mi fa viva, che mi fa lieto. Spento è quel sol, quel sorriso, quel lancio che mi fa viva, che mi fa lieto.
Retentissent au dehors. L'île de Chypre, qui est sous la tutelle de la République de Venise, reçoit une délégation du Doge venue s'inquiéter de la conduite d'Othello, que l'on dit devenu fou. N'oublions pas qu'Othello est le meilleur navigateur de la flotte vénitienne et que le doge, représenté par Ludovico, la basse à la scène, veut en savoir plus sur la santé mentale de son général préféré. Et hélas, la visite ducale va aller de surprise en surprise. Tout d'abord, le calme règne, mais lorsque l'on demande à voir Desdémone, Othello redevient fou de rage et de honte. Il la saisit par les cheveux et la jette à terre. Il hurle : cette prostituée est la femme d'Othello. Les autorités vénitiennes n'en croient pas leurs yeux ni leurs oreilles. Le représentant du Doge, Ludovico, est abasourdi. Mais il est donc vraiment devenu fou, cet Othello. Et c'est là, au final du troisième acte, et non plus au final du 2, que Verdi nous propose son grand concertato habituel, avec tout le monde en scène, personnages principaux soutenus par les très nombreux choristes, figurants, danseurs et orchestres géants. Les pleurs de Desdémone, loin de calmer le maure, vont au contraire le conduire au scandale total devant la délégation vénitienne éberluée. Et Othello terminera l'acte par ces paroles adressées à Desdémone, ou peut-être à lui-même, ou peut-être aux deux. « Anima mia ti maledico, mon âme, je te maudis. » C'est peut-être sa propre âme qu'il est en train de maudire. Ainsi se termine ce long troisième acte, plein de grands moments musicaux. Écoutons. À terre et piangi. À terre et pleure. Écoutons par Del Monaco, Mario Del Monaco, le grand, et par Vittoria de Los Angeles. Écoutons donc ce grand concertato. Quatrième et dernier acte est beaucoup plus intime. Pas de foule, seuls les principaux protagonistes. Desdemone, qui a bien compris que rien n'arrêtera Othello et que son funeste destin va s'accomplir, se plonge dans son passé lointain, comme pour apaiser son âme et fuir le moment présent. Elle évoque une vieille cantilène que lui chantait sa mère, la chanson du saule, pleine d'une mélancolie incurable. La chanson du saule, c'est un merveilleux air de concert que les divas chantent souvent en récital. Le récitatif est même, lui, très intéressant, soutenu par les phrases tristes du corps anglais, ce gros hautbois grave. Et quand débute l'aria proprement dite, on se rappelle le Moyen-Orient de Haïda et cette ambiance parfumée du folklore mauresque. Écoutons bien sûr l'incomparable Maria Callas nous conter sa mélancolie dans cette chanson du saule.
Emilia, te ne prego, ti stendi sul mio letto la mia pallida veste, Luzia. Thank you.
maintenant pour Desdémone de recommander son âme à Dieu, car dans la chambre, Othello est en grande prière mauresque, prière de cérémonie funèbre, car il va bientôt assassiner l'innocente Desdémone. Et Verdi se surpasse en composant un Ave Maria d'une qualité exceptionnelle. Intensité spirituelle, lumière intérieure d'une martyre, orchestre soyeux et mystérieux, un vrai chef-d'œuvre. Réécoutons Maria Callas pour notre plus grand plaisir. Ave Maria.
Ave Maria, piena di grazia, eletta fra le spose, le vergini sei tu, sia benedetto il frutto, oh benedetta, di tui materne viscere.
Phrase confiée aux seules contrebasses de l'orchestre et qui nous font songer au thème principal du Parsifal de Wagner qui a tant impressionné Verdi. Othello arrive et dans un court duo dans lequel se débat la pauvre Desdémone suppliante, le maure étrangle la pauvre martyre. Emilia, la femme de chambre qui a tout entendu, appelle à l'aide et quand Iago et Cassio arrivent, Elle avoue enfin comment son mari a tout manigancé. L'histoire du mouchoir brodé d'or, cadeau suprême. Le mensonge sur la conduite de Desdémone. La haine de Iago pour Othello et pour Cassio. Bref, elle déballe tout. Iago s'enfuit, mais on le rattrape. Et sera-t-il tué ? On ne sait pas. C'est la grande énigme de Shakespeare et de Verdi qui ont laissé, tous deux, peut-être, on ne sait pas, la vie à ce monstre. Peut-être pour montrer que le mal ne périt jamais. Allez savoir. Puis, Othello, après avoir pleuré la mort de sa femme, retourne son arme contre lui. Et en expirant, il donne un dernier baiser à Desdémone. Écoutons ce dernier monologue par Placido Domingo. Niun mi tema, que personne ne me craigne plus, car Othello fou, Othello n'existe plus. En écoutant cette bien triste fin, nous vous donnons rendez-vous, Nancy et moi, le mois prochain, pour une nouvelle émission. Merci de votre écoute. Bonsoir.
Duh!